France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, avant de filer au standard, une question pour nos deux invités. L'actualité ce matin, c'est cette plainte, en tout cas cette lettre adressée par les fillonistes au parquet national financier et au procureur de Paris, c'est-à-dire à la fois à Éliane Houlette et à François Molins, pour dénoncer avec à partir de l'article 40 du code de procédure pénale des faits délictueux qui seraient contenus dans ce livre qu'on citait tout à l'heure. Bienvenue Place Beauvau, Recasens, Sassou et Labbé. Est-ce que cette lettre, cette plainte a une chance quelconque d'aboutir, Laurent Valdiguier?
Alors, il y a une douzaine d'extraits qui sont visés avec des infractions présumées à côté. Il faut espérer que le parquet réponde point par point.
Oui.
Il faut espérer que le parquet donne sa grille de lecture à ça. Parce qu'en réalité, quand on regarde les passages, ce sont souvent des passages anonymes, sans source, et sans beaucoup de précision. Et pour ce qui est vérifiable, en tout cas, dans ces passages, notamment un article qui était une enquête du Nouvel Obs, on sait que les accusations qui sont portées, hein, de cet article aurait été téléguidé par une officine proche de l'Élysée, voilà, dans le but de nuire à Manuel Valls.
L'enquête de l'Obs porte sur l'épouse de Manuel Valls. Voilà, on va y venir dans un instant.
On sait, les auteurs se sont défendus dans les colonnes de l'hebdomadaire pour expliquer à quel point c'était absolument faux et à quel point c'était de leur initiative. Mathieu nous le dira. Donc en fait, il faut espérer vraiment que le parquet s'explique. C'est un peu ce qui manque dans le débat actuel, dans ce match d'accusations réciproques, c'est une voie judiciaire qui puisse dire un peu publiquement,
voilà comment on travaille,
un peu par le haut, voilà, oui, voilà comment on travaille et pourquoi on travaille, et comment on fait les choses. C'est souvent simple en réalité, mais le parquet est souvent tenu, sauf en matière terroriste, a tenu un secret qui au fond nuit à la façon dont la justice fonctionne aujourd'hui.
Absolument, et ce qui interroge aussi, c'est ce changement d'attitude qui a été invoqué, hein, qu'on a entendu à droite, de dire mais enfin d'habitude il y a toujours une trêve au moment des campagnes électorales, les juges arrêtent de travailler, leurs investigations, manifestement
c'est un peu une invention
pas.
C'est un peu une invention, cette histoire de trêve. Van Runbeck par exemple, c'était interdit de faire des perquisitions en période électorale, la justice c'était souvent interdit de juger, d'audiencer des affaires en période électorale, mais jamais d'enquêter quand une affaire est à ce. La nouveauté, c'est que la justice enquête.
Voilà.
Voilà. C'est Mathieu Aron.
Oui, d'un mot pour revenir sur ce que disait un instant Laurent. Le parquet dira s'il y a lieu ou pas d'enquêter. Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement les faits sont très peu précis. Il y a beaucoup de sources anonymes. Ça n'a rien à voir du tout avec les faits qui ont été avancés dans l'affaire Fillon, l'affaire principale. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y avait des chiffres, des données qui pouvaient être vérifiées. C'était relativement simple, le travail du parquet. Là, on est beaucoup sur des supputations dans ce livre, d'une part. Et pour ce qui est des faits plus précis, à l'Obs, on a regardé, puisqu'on a été mis en cause, puisque les auteurs de ce livre accusent en réalité François Hollande d'avoir voulu monter un sale coup contre Manuel Valls et de s'être servi de l'Obs à cette occasion. Ce sont deux journalistes de l'Obs qui avaient mené un travail remarquable d'enquête, Caroline Michel et David Lebailly, sur l'orchestre dont la femme de Manuel Valls avait pris la direction artistique. On avait fait un très bon papier à l'époque. Les journalistes avaient travaillé eux-mêmes. Il n'y avait eu absolument aucun cabinet noir qui avait téléguidé quiconque là-dessus.
Et donc, ce qui est dit là, dans
ce livre-là, sur ce point, en tout cas, est intégralement faux.
Il y a une histoire quand même qui est très documentée dans le livre, qui est assez troublante. Effectivement, c'est l'histoire du fils de Valérie Pécresse qui a fait l'objet d'une fuite. Apparemment, on était en pleine élection régionale, instrumentalisée par des proches de Claude Bartolone.
C'est ce qu'avance le livre.
C'est assez précis. C'est raconté assez précisément.
Oui. C'est possible. Pour le coup, s'il y a matière à investiguer, le parquet investiguera.
Parquet investiguera. Il faut savoir que là, on ne sera pas dans une affaire
mettant
en cause la probité ou un quelconque détournement de fonds publics. On serait sur une affaire de violation du secret de l'enquête ou une affaire de violation du secret de l'instruction, qui n'est quand même pas de la même gravité que les faits qui sont reprochés à M. Fillon.
Absolument. Olivier nous appelle de l'Oise. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour messieurs.
Nous vous écoutons.
Merci beaucoup pour la qualité de vos émissions. Merci. Je réagis simplement à ce que disait un de vos invités tout à l'heure au début de sa prise de parole. Mmh. Et je repense à l'affaire Leroux. Lorsque l'ancien, maintenant ministre de l'Intérieur, a pris ses fonctions, on a sorti une affaire sur lui quelques jours après. Je trouve ça finalement un petit peu... C'est très bien qu'on sorte des affaires. Et c'est très très bien, ça aide à la transparence de la vie publique. Mais est-ce que c'est pas un petit peu vicieux, entre guillemets, d'essayer de fouiner au moment où les candidats sont déjà sur la ligne de départ? Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un système, parce qu'on sait d'où viennent en général les personnalités politiques, ce sont des élus ou des parlementaires, il n'y en a pas finalement tant que ça, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système qui vise un petit peu à à garantir la transparence de leur vie, de leur fonction, mais avant qu'ils puissent accéder à des responsabilités importantes?
Laurent Valiguier.
Bah, pourquoi pas, c'est une bonne remarque. C'est vrai aussi que en général, ces affaires naissent de choses cachées, de choses dissimulées pendant longtemps. Dans le cas de François Fillon, ce sont toute une série de choses qui n'avaient jamais été portées à la connaissance du public. Et pour cause, puisqu'on découvre à chaque étape des emplois successifs de son épouse, que dès lors que la loi changeait pour rendre les choses un peu plus transparentes, l'emploi de Pénélope Fillon changeait. Autrement dit, souvent, les choses sont cachées longtemps. Et en réalité, contrairement à ce que croient souvent les gens, on les révèle, entre guillemets, quand on les découvre, uniquement quand on les découvre.
Mathieu Aron.
Alors, il faut savoir quand même que depuis quelques années, année après année, il y a un dispositif qui se renforce, où on demande aux élus parlementaires, ministres, de déclarer quel est leur patrimoine, de déclarer s'il y a un éventuel conflit d'intérêts dans le travail qu'ils ont pu occuper auparavant. Donc, il y a tout un processus qui s'est mis en place ces années. Cela dit, il faut être très clair, quel que soit le dispositif qu'on mettra en place, quelle que soit la grille la plus étroite qu'on installera pour essayer de faire en sorte que le personnel politique soit le plus intègre possible, forcément, il y aura toujours des gens qui passeront à travers des mailles, il y aura toujours effectivement des affaires et il y aura la presse qui s'intéressera à tel ou tel.
Sur l'affaire Leroux, on y reviendra tout à l'heure dans l'instant M avec Sonia De Villers à 9h40, puisque elle aura comme invitée la journaliste qui, entre guillemets, a fait tomber Bruno Leroux, Valentine Auberti, journaliste à Quotidien, à l'origine de l'opération Parlement Transparent. Luc nous appelle de Paris au Standard d'Inter. Bonjour Luc.
Oui, bonjour et merci pour la question. Je voulais savoir où en était la procédure concernant la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen au Parlement européen et concernant l'affaire de ses assistants. Parce qu'il a déjà été levé pour une autre affaire et on n'a pas de nouvelles. Merci.
Merci à vous Luc. Mathieu Aron.
Alors, à ma connaissance, ces procédures de levée d'immunité prennent des semaines et des mois, hein, donc on n'en est pas encore à la fin. Et pour ce qui est de l'affaire des assistants parlementaires qui visent Marine Le Pen et son parti, il y a eu une enquête interne qui a été menée au sein du Parlement européen qui s'est dotée d'un office pour lutter contre la corruption. C'est à partir des éléments qui ont été recueillis qu'une enquête pénale, elle, a été ouverte en France. Il y a eu un juge saisi, il y a eu une mise en examen qui a été prononcée. Donc Marine Le Pen est mise en examen dans cette affaire, d'assistant fictif du Parlement européen.
J'ajoute que pour ce qui est du procès, des affaires concernant le financement des campagnes électorales du Front National, il y a une première instruction qui est terminée, qui attend un procès, qui n'a pas été audiencé dans les mois précédant l'élection présidentielle, pendant la campagne électorale, et qui devrait avoir lieu dans les prochains mois,
À l'automne, vraisemblablement.
Sans doute à
l'automne. Et on peut remarquer qu'il y a plusieurs, parce que dans l'affaire dont vous parlez, sans rentrer là aussi trop dans le détail, il y a plusieurs volets dans cette affaire. Oui, donc il y a plusieurs
affaires. C'est un premier volet, mais le Front National est mis en examen.
Absolument.
En tant que tel,
il faut savoir que
Marine
Le Pen est mise en examen dans son affaire d'emploi fictif, que le Front National, en tant que parti dans un autre dossier, est mis en examen, que le trésorier du Front National est mis en examen, et que l'un des vice-présidents du Front National est lui aussi mis en examen. Donc du côté des affaires, le FN n'a pas grand-chose à envier à François Fillon.
Alors, pas mal de réactions d'auditeurs. Je vous épargne les compliments et j'en viens aux critiques. Herto sur l'application France Inter. Laborieuse tentative de justification de vos pratiques journalistiques. Présomption d'innocence foulée aux pieds. Secret de l'instruction bafoué. Instrumentalisation des procédures judiciaires, etc. Vous faites le lit de Marine Le Pen en écœurant les Français de la politique. Qui veut répondre? Mathieu Aron.
Alors, je vais dire quelque chose qui va choquer. on parle beaucoup de présomption d'innocence et bien entendu, c'est quelque chose qu'on va tous respecter. Il faut quand même s'arrêter un instant. quand un juge d'instruction met en examen une personne, ça s'appelle une présomption de culpabilité. Pourquoi ? Parce que ça signifie qu'un juge, à un moment donné, est saisi d'un dossier.
Vous voulez dire pour l'opinion, pas pour la.
Non, pas pour l'opinion, pour le droit. Quand un juge d'instruction est saisi d'un dossier, il a un certain nombre de pièces, il a des preuves, il a des témoignages, il ne part pas de rien. À partir de là, il regarde, il a un premier regard sur le dossier. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde s'il y a un certain nombre de charges, et il en faut plusieurs. Et s'il estime qu'il y a plusieurs charges contre une personne, alors à ce moment-là, la personne est mise en examen. Ça signifie que dans l'état actuel de l'enquête, il y a des éléments à charge incontestables contre une personne. S'il n'y avait pas d'éléments à charge suffisants, s'il n'y avait qu'une seule charge, alors à ce moment-là, la personne serait mise dans un autre statut qui est celle de témoin assisté. Donc il faut savoir de quoi on parle précisément. Et puis d'un point aussi.
Vrai, mais il y a eu des non-lieux après les mises en examen.
Bien entendu, il peut y avoir des non-lieux et il y a une enquête qui se poursuit. Mais quand on parle de mise en examen, une mise en examen, ce n'est pas un acte anodin. C'est pas le début d'une enquête. C'est à un moment donné un magistrat instructeur qui considère qu'il y a plusieurs charges qui laissent entendre que la personne peut avoir commis une infraction. Voilà exactement ce que ça signifie.
Laurent Valdiguier, vous avez le sentiment de dégoûter les Français de la politique ?
Non, mais c'est vrai que c'est douloureux. C'est vrai que les Français sont en train de choisir leur nouveau président. Après une campagne pour la primaire à droite où il y avait eu un débat, et y compris sur les affaires, justement. C'est ça le paradoxe de la situation de François Fillon. Donc c'est vrai que les gens qui s'apprêtaient à voter François Fillon, découvrant tout ça, je comprends qu'ils soient choqués. Je comprends qu'ils soient déçus. Je comprends qu'ils se disent, mais pourquoi maintenant ? Donc toutes ces questions, tout ce débat autour des affaires, comme disait Mathieu, la justice, elle fait son travail. C'est la vraie nouveauté du moment actuel, c'est que le parquet n'a pas hésité à ouvrir une enquête judiciaire. Dans l'affaire Cahuzac, il y a beaucoup de similitudes dans l'affaire Cahuzac et dans l'affaire Fillon. Ce sont deux personnages un peu seuls qui avaient fait...
Et secret, et puis
qui avaient fait campagne justement sur la rigueur, l'honnêteté, tout ça. Et donc le parquet... Dans l'affaire Cahuzac, avait mis 3 mois avant d'ouvrir une enquête. Dans l'affaire Fillon, 24 heures. Donc, cette enquête fonctionne aujourd'hui comme un rouleau compresseur à découvrir un nouveau François Fillon.